Vous écoutez, on lit pour vous.
Surtourisme en Espagne et ras-le-bol des habitants. Un texte de Valentin Bontemps de l'agence France Presse, paru le 11 juillet 2023 dans Le Devoir. Deuxième destination mondiale après la France, l'Espagne devrait accueillir un nombre de visiteurs record cet été, selon les organisations professionnelles du secteur, en quête de solutions face aux mouvements hostiles au surtourisme qui se multiplient dans le pays. D'après les données publiées jeudi 11 juillet 2024 par l'agence de promotion du tourisme Tour España, dépendant du ministère du Tourisme, 41 millions de touristes étrangers pourraient visiter l'Espagne durant la période estivale, après les 33 millions enregistrés durant les 5 premiers mois de l'année. Ce chiffre est supérieur de 13% à celui de l'été 2023, année du précédent record. Il devrait s'accompagner, selon le ministère, d'une forte hausse des recettes générées par le tourisme attendu en hausse de 22% sur cette période à près de 59 milliards d'euros. Cela confirme le succès du modèle touristique espagnol, a estimé le ministre du Tourisme Jordi Eru, lors d'un point de presse, en insistant sur la hausse des dépenses liées, selon lui, à la montée en gamme de l'offre espagnole. L'attractivité de l'Espagne se confirme mois après mois, a-t-il insisté. Selon l'Institut national des statistiques, INE, l'Espagne a accueilli l'an dernier 85,1 millions de visiteurs étrangers, principalement britanniques, français et allemands. Au vu de la dynamique actuelle, ce chiffre record devrait être largement battu en 2024. D'après les économistes de CaixaBank, l'Espagne pourrait accueillir plus de 90 millions de touristes étrangers cette année grâce à la reprise économique en Europe et à l'image de sécurité associée à la péninsule ibérique dans un contexte de forte tension internationale. L'organisation patronale Exceltour, qui a publié jeudi ses propres estimations, prévoit de son côté une hausse de 4,6% des recettes touristiques en 2024 à la faveur d'une forte progression de la fréquentation estivale au Pays Basque, plus 8,3%, en Andalousie, plus 7,4%, et à Madrid, plus 11,5%. Si ces prévisions se confirment, le produit intérieur brut touristique de l'Espagne dépasserait pour la première fois les 200 milliards d'euros cette année, ce qui porterait la contribution du tourisme à l'économie espagnole à 13,2%, précise Exceltour. Poussée de colère. Ces projections surviennent alors que les mouvements hostiles au surtourisme se multiplient dans le pays, depuis les îles Baléares jusqu'aux Canaries, en passant par Malaga et Barcelone, où plusieurs milliers de personnes ont de nouveau défilé samedi pour réclamer des mesures contre cette surfréquentation. Les manifestants dénoncent à la fois les nuisances sonores, la pollution, la congestion des infrastructures de transport et la flambée des loyers, alors que de nombreux propriétaires de logements se tournent vers la location touristique, nettement plus rentable. Le tourisme est absolument essentiel pour l'Espagne, mais il faut agir face à ses effets négatifs, a reconnu fin juin le ministre du Tourisme Jordi Eru. Nous n'allons pas interdire aux gens de venir en Espagne, mais nous pouvons limiter l'offre touristique, a-t-il également assuré. Un message relayé par Ramon Estalella, secrétaire général de l'association hôtelière SEAT. Nous devons nous efforcer de préserver et améliorer les clés du succès qui ont fait de l'Espagne la référence mondiale en matière de tourisme estival, a-t-il jugé, début juillet 2024. Face à cette poussée de colère, plusieurs régions ont récemment pris des mesures pour juguler le problème, à l'image de Barcelone, qui a annoncé le 21 juin 2024 vouloir mettre un terme à la location d'appartements touristiques d'ici à 2029 pour faciliter l'accès des habitants au logement. Une démarche encouragée par le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, qui travaille à la création d'un registre des logements touristiques et saisonniers afin de lutter contre la location illicite de certains appartements. Ce registre pourrait être disponible en mars ou avril 2025, a précisé Judy Jordi-Héreux. La croissance illimitée du tourisme en haute saison dans les régions sous tension n'est clairement pas viable, reconnaît Excel Tour, qui met cependant en garde contre les réactions de certains habitants. Des touristes ont été attaqués avec des pistolets à eau ces derniers jours à Barcelone. Ces comportements sont plus que répréhensibles et créent des dommages à la réputation internationale du secteur touristique dont dépendent tant de personnes en Espagne, conclut l'organisation patronale. C'était Sur tourisme en Espagne et ras-le-bol des habitants, un texte de Valentin Bontemps de l'agence France Presse paru le 11 juillet 2023 dans Le Devoir.
Une soirée dans un parc à observer les insectes nocturnes. Un texte de Raphaël Derome paru le 7 avril 2024 dans le magazine Québec Science. Rien de mieux qu'une soirée d'observation près de chez soi pour apprivoiser le monde méconnu et mal aimé des insectes nocturnes. On les voit tourner sans fin autour de nos lampadaires. S'ils ne sont pas morts d'épuisement le lendemain matin, ils s'accrocheront aux moustiquaires de nos chalets ou dans les anfractuosités d'un tronc d'arbre pour se reposer. On connaît bien peu le monde des papillons de nuit et des autres insectes nocturnes. Pourtant, il suffit de peu de choses pour avoir le plaisir de les observer de près. Un drap, une lampe et un peu de patience. Le soleil se couche à peine lorsque Québec Science se présente au parc du Boisé Jean-Milot par une chaude soirée de la fin juin. Ce terrain municipal de l'est de Montréal fut une carrière, puis un dépotoir, avant d'être adopté par les gens du coin en 2005. Depuis, les bénévoles du comité de surveillance Louis Riel en prennent un soin jaloux. Entretien des sentiers, plantation de presque 1000 arbres, lutte contre les plantes envahissantes. Petit écrin de verdure niché entre un secteur résidentiel et les stationnements d'un centre commercial. Il arbore une allure sauvage surprenante en pleine ville. En empruntant le sentier qui descend au pied de l'abrupte falaise, on sent tout de suite la fraîcheur des lieux. Debout dans les fleurs sauvages, notre hôte, André-Philippe Drapeau-Picard, finit d'installer son matériel. Ce biologiste de formation, habitué des lieux, travaille comme préposé au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Mais c'est à titre bénévole qu'il animera notre soirée de draps. Draps qui n'en est pas réellement un, d'ailleurs. Il s'agit plutôt d'une fine toile de nylon blanc suspendue à un arceau de métal, semblable à celui d'une tente de camping qui tient debout par des cordes tendues. Démonté, l'ensemble est compact et se transporte aisément à vélo. Oh oh! La proximité d'un étang attire les insectes piqueurs. A-t-on le droit de s'enduire de chasse-moustique quand on participe à une activité d'observation d'insectes? Oui, oui, pas de souci, nous dit rassurant le fan de Bibitte. À la tombée de la nuit, le public arrive. Une vingtaine de personnes de tous âges, certaines déjà adeptes, d'autres complètement néophytes. Après une brève introduction, André-Philippe Drapeau-Picard allume la lampe de son piège lumineux, baignant l'assistance dans une lumière bleu-verdâtre. Conçue par un entomologiste allemand, la Lépilède, lépi pour lépidoptère, le nom de l'ordre d'insectes auquel appartiennent les papillons diurnes et nocturnes, émet dans l'ultraviolet, le bleu et le vert, ce qui correspond au pic de sensibilité des yeux des insectes nocturnes. Ces derniers ne tardent pas à se présenter sur le drap ou à dégringoler sur le tapis formé par le prolongement de tissu qui repose au sol. D'abord, quelques trichoptères, des insectes aquatiques venant probablement de l'étang avoisinant. Puis, une chrysope, dont le corps vert métallique rappelle celui des demoiselles qui patrouillent au bord des lacs. Un opilion, ou faucheux, cet arachnide au corps sphérique et aux longues pattes minces. Et bien sûr, quelques papillons. L'élégant Hydria prunivorata, finement rayé de brun et de blanc. L'étonnante fossile lignée Drepana arcuata, dont les ailes délicatement recourbées rappellent la forme d'une moustache. Sans oublier la toute petite Maliata sinochitis, dont les taches vertes évoquent des mousses, des lichens ou des fientes d'oiseaux, dit André-Philippe Drapeau-Picard. Berk. La nuit, tous les papillons sont gris. En comparaison des papillons diurnes, les papillons de nuit sont plus calmes et se laissent facilement photographier ou même manipuler. Reste que plusieurs spécimens sont, disons-le, assez ternes. Les papillons de jour arborent de chatoyantes couleurs pour attirer leurs partenaires ou effrayer d'éventuels prédateurs. Oublie ça, le gros, je goûte mauvais. Mais tout ce flafla est inutile pour les papillons de nuit. Les tons de gris, de beige et de brun leur servent à se camoufler pour échapper aux prédateurs diurnes. Dans le noir, ce sont des phéromones qui servent à repérer les partenaires potentiels. Pour mieux capter ces infimes quantités de messagers chimiques dilués dans l'air, plusieurs espèces de papillons de nuit sont d'ailleurs munies d'antennes dites « plumeuses », dotées de nombreux poils sensoriels. Pour capturer des papillons pour leur collection, des entomologistes vont même garder une femelle en cage à l'extérieur pour attirer les papillons mâles qui vont repérer son odeur à plusieurs kilomètres de distance, rapporte Stéphanie Boucher, conservatrice du musée entomologique Liman à l'Université McGill. Quant à l'abondante toison qui couvre leur tête et leur corps, il ne s'agit pas de poils, mais d'écailles très fines, précise Stéphanie Boucher. Elles conservent leur chaleur corporelle. Cette fourrure servirait aussi de camouflage acoustique, en absorbant jusqu'à 85% des ultrasons émis par les chauves-souris, selon une étude publiée en 2018 dans le Journal of the Royal Society Interface. L'écho n'étant pas renvoyé vers la prédatrice affamée, le papillon devient quasi indétectable. Ces insectes n'ont que quelques jours ou quelques semaines pour trouver un partenaire et s'accoupler. La femelle pondra ses œufs sur la ou les plantes hôtes. L'œuf laissera sortir une chenille, pas toujours nocturne d'ailleurs. Celle-ci grignotera les feuilles de sa plante hôte et muera plusieurs fois avant de tisser son cocon. Plusieurs espèces présentes au Québec passent en effet l'hiver sous forme de chrysalides, suspendues à une branche, avant d'émerger l'année d'après. Vous écoutez « Une soirée dans un parc à observer les insectes nocturnes », un texte de Raphaël de Rome, paru le 7 avril 2024 dans le magazine Québec Science. Discret, mais utile. Les papillons de nuit n'en sont pas moins des acteurs clés de nos écosystèmes. D'abord, à titre de proie. Au stade de chenille ou de papillon, ils constituent une source de nourriture importante pour les oiseaux, les grenouilles, les araignées, les guêpes et les chauves-souris les plus futés. De plus en plus d'études montrent aussi leur rôle dans la pollinisation des plantes. Sauf pour certaines espèces qui ne se nourrissent pas au stade adulte, un papillon de nuit va faire la même chose qu'un papillon diurne, c'est-à-dire visiter les fleurs pour se nourrir du nectar avec sa trompe. C'est là qu'il va avoir du pollen sur les pattes et qu'il va le disperser de fleur en fleur, indique Stéphanie Boucher. Même leurs excréments sont utiles. Certaines espèces vont être très abondantes certaines années et leurs excréments vont enrichir la terre en matière organique, poursuit-elle. Et nos salutations à Bombyx mori, ce papillon de nuit domestiqué en Asie depuis des siècles pour fournir la soie avec laquelle il produit son cocon. Méconnu et menacé, il reste qu'on en sait beaucoup moins sur la biologie des papillons nocturnes que sur celle des papillons diurnes. D'abord, parce qu'il y a 10 fois plus d'espèces au Québec, on compte environ 1300 espèces de papillons de nuit contre seulement 130 de jour. C'est un groupe qui est vraiment méconnu. On découvre régulièrement de nouvelles espèces de papillons de nuit, alors que c'est très rare pour les papillons diurnes, souligne Stéphanie Boucher. D'ailleurs, plusieurs papillons dits « de nuit » sont actifs le jour. La chenille ne suit pas non plus le même horaire que le papillon. Stéphanie Boucher en sait quelque chose. Les larves de polyphèmes d'Amérique qu'elle a élevées chez elle il y a quelques étés se nourrissaient bruyamment, presque 24 heures sur 24. En effet, c'est la morphologie et non la période d'activité qui détermine à quel sous-ordre appartient un papillon. Les papillons de jour sont les ropalocères, du grec ropalon, massue et keras, corne ou antenne. Ils ont des antennes à bout élargies. Au repos, ils placent leurs ailes à la verticale. Les papillons de nuit sont des hétérocères. Hétéro signifie autre. Leurs antennes peuvent être filiformes, plumeuses ou encore larges sur toute la longueur. Au repos, ils placent leurs ailes à plat sur leur corps. Comme bien des insectes, les papillons de nuit et autres bestioles nocturnes sont en déclin en raison de l'utilisation des pesticides, de la destruction de leurs habitats, du réchauffement climatique, de l'arrivée de plantes envahissantes qui remplacent la flore indigène. Plusieurs papillons ont des exigences assez précises en matière de plantes hôtes. Leurs chenilles ne se nourrissent que d'une espèce de plante. Ils souffrent aussi de la pollution lumineuse. En multipliant les soirées d'observation, André-Philippe Drapeau-Picard souhaite documenter et comparer la diversité observée dans différents parcs urbains. Au parc Frédéric Bach, où il avait animé une soirée similaire quelques semaines plus tôt, les aménagements paysagers sont assez jeunes, alors qu'ici, c'est plus avancé. On a aussi planté des plantes nectarifères indigènes. On peut penser que ça a un impact sur l'entomofaune, la faune des insectes. En dressant le portrait des insectes nocturnes, on devrait voir que les changements dans la végétation se reflète dans la diversité des insectes. À la fin de la soirée, il téléversera ses photos sur le site collaboratif e-naturaliste.ca. Ce réseau social pour naturalistes est équipé d'un algorithme de reconnaissance d'images qui propose automatiquement le nom de l'espèce, mais cette identification doit ensuite être confirmée par les autres usagers et usagères. Chaque cliché est aussi précieusement étiqueté. On y indique la date, l'heure et le lieu de l'observation. Petit à petit, l'accumulation de ces données de sciences citoyennes aide les scientifiques à étudier la répartition spatiale et temporelle des différentes espèces, ce qui permet de documenter, par exemple, l'arrivée d'espèces envahissantes. On n'a pas besoin d'être un expert pour partager nos observations puis contribuer à des projets collaboratifs comme l'Atlas des papillons de nuit du Québec, se réjouit André-Philippe Drapeau-Picard. Pour les néophytes, e-naturaliste est aussi très utile. Même sans créer de profil, on peut zoomer sur la carte pour savoir quelles bestioles fréquentent le sentier ou la région où l'on se trouve. Ou encore, tapez le nom d'une espèce pour découvrir où et quand on aura le plus de chances de la voir. Ce soir-là, nous n'aurons vu aucune des grosses vedettes de la nuit. Ni la Saturnie cecropia, Yalophora cecropia, plus gros papillon au Canada, avec ses 15 cm d'envergure. ni le papillon lune, Actias luna, dont les ailes vert émeraude se prolongent en forme de longues queues remarquables. Mais on a pu observer de près plusieurs espèces étonnantes, discuter avec d'autres enthousiastes, et les enfants ont pu s'amuser à faire sauter un taupin, une sorte de coléoptère au corps allongé. Lorsqu'on le couche sur le dos, il bondit dans les airs en produisant un clic audible. Très rigolo. Après ces moments privilégiés, dans l'obscurité, on repart le long des rues, abondamment éclairées par des lampadaires, des enseignes de magasins et des phares de voitures. C'est là qu'on comprend que la noirceur est aussi un habitat à protéger. Vous écoutez « Une soirée dans un parc à observer les insectes nocturnes », un texte de Raphaël de Rome paru le 7 avril 2024 dans le magazine Québec Science. Piégé par la lumière. Dès le premier siècle de notre ère, on avait remarqué que la lueur des lampes attirait les insectes nocturnes. Diverses hypothèses ont été avancées jusqu'ici pour expliquer le phénomène. Les insectes confondraient la lumière artificielle avec celle de la lune et s'en trouveraient désorientés. Ils fuiraient leurs prédateurs en direction des lampadaires, assimilant leur lueur à celle d'une trouée dans le feuillage. Ils seraient aveuglés par nos lampes, ou encore, ils en rechercheraient la chaleur. Une étude parue fin janvier 2024 dans la revue Nature Communication, pourrait bien mettre un terme à ces débats. Elle démontre que les insectes nocturnes ne sont pas attirés, mais bien trompés et désorientés par nos lampes. Et ce, en raison d'un réflexe bien ancré chez eux. Pour voler, les insectes doivent en effet s'orienter adéquatement dans l'espace. La nuit, la luminosité, même faible, du ciel nocturne constitue un repère utile. De nombreux insectes volants présentent donc une réponse dorsale à la lumière. Ils lui tournent automatiquement le dos. Un phénomène déjà bien décrit chez les poissons qui vivent eux aussi entre la surface lumineuse et les fonds sombres de l'océan. Pour tester ce comportement chez les insectes, une équipe de scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis et du Costa Rica a fait voler des insectes dans une tente circulaire en captant leur trajectoire à l'aide de caméras hypersensibles. Le dos de chaque insecte était marqué de points afin qu'on puisse suivre précisément sa position dans l'espace. Après des centaines d'essais menés avec des individus provenant de 10 ordres d'insectes différents, l'équipe a conclu que les insectes ne se dirigeaient pas volontairement vers la lumière. C'est plutôt qu'à proximité d'une source lumineuse. Le fait de tourner le dos à la lumière les force à suivre une orbite circulaire autour de la lampe. Quand la tente était éclairée par une lumière diffuse provenant du plafond, semblable à celle d'un ciel nocturne, les insectes circulaient normalement. Une expérience précédente avait montré que, sur 50 papillons de nuit relâchés à 85 mètres d'un piège lumineux, seuls 2 avaient été recapturés par ce piège. Les insectes qu'on trouve dans nos pièges lumineux seraient donc ceux qui passaient au hasard, et non des individus curieux venus de plus loin. Ces recherches renforcent l'idée selon laquelle la pollution lumineuse a des impacts importants sur les insectes nocturnes. D'autres travaux ont d'ailleurs noté une baisse de la diversité et de l'abondance des papillons de nuit dans les habitats éclairés artificiellement. C'était « Une soirée dans un parc à observer les insectes nocturnes », un texte de Raphaël de Rome paru le 7 avril 2024 dans le magazine Québec Science.
Le Congrès mondial acadien est-il le plus grand événement de la francophonie? Un texte de Marianne Despelleteau de Franco-Presse, paru le 13 mai 2024 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Du 10 au 18 août 2024, le Congrès mondial acadien, CMA, rassemblera la diaspora acadienne en Nouvelle-Écosse. Les festivités et les réflexions importantes attireront des milliers de participants. Mais elles provoquent aussi un débat chez les Acadiens. Cette édition du CMA aura lieu dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, dans les régions de Clare et d'Argyle, qui ont accueilli une population importante d'Acadiens à la suite de la déportation. De nombreuses institutions et des organismes francophones y ont depuis vu le jour. On y trouve entre autres l'Université Sainte-Anne, dont le recteur et vice-chancelier sortant, Alistair Surette, préside le comité exécutif du CMA. C'est un retour pour celui qui a été fondateur et président du comité organisateur du CMA de 2004. Le congrès est une bonne plateforme pour renouveler, si on veut, la fierté de notre population, les Acadiens, les francophones de la Nouvelle-Écosse, mais aussi d'augmenter l'intérêt de notre communauté auprès des gouvernements provincial, municipal et fédéral, parce que les trois paliers de gouvernement sont bien engagés financièrement et autrement, dit-il. Le plus grand événement de la francophonie? J'oserais croire que oui, répond Alistair Surette. On se prépare pour environ 30 000 personnes au cours des 9 jours. Plus de 50 familles acadiennes seront réunies avec chacune son activité spéciale. S'ajoutent à cela les activités principales organisées par le CMA et les spectacles annoncés, ce qui souligne l'ampleur de cette rencontre. On a le festival d'ouverture qui va être sur le campus principal de l'Université Sainte-Anne dans la région de la Baie-Sainte-Marie de Clare. Et là, on aura des artistes comme le Petit Béliveau, les Hey Babies, annonce le président. Un des gros spectacles qui est toujours central des congrès mondiaux, c'est celui de la Fête nationale de l'Acadie le 15 août. À l'affiche de ce spectacle, on retrouve Zachary Richard, Lisa Leblanc, Edith Butler et les Salbarbes. C'était le congrès mondial acadien est-il le plus grand événement de la francophonie? Un texte de Marianne Despelletot de Francopresse, paru le 13 mai 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.